Résonance sur Radio B, Alain Goudard. Bienvenue à tous et à toutes. Une émission réalisée et mise en onde par Simon Deborne. Donner la parole et valoriser la parole de chacun, partager des réflexions, des connaissances, des problématiques, des points de vue, ce sont les raisons d'être de cette émission qu'est Résonance, pour vous et avec vous. Chaque émission prend un visage, un aspect, une forme différente pour rendre compte de la pluralité des expressions humaines, pour prendre du plaisir, celui de la découverte et nourrir le penser. Aujourd'hui, Résonance ouvre son micro à des chanteurs, comédiens, artistes, plasticiens, musiciens singuliers, directeurs de lieux de diffusion, afin de partager ensemble les questionnements, les réflexions, les difficultés que vivent les acteurs de la culture dans le cadre de cette crise sanitaire. Résonance, partage, soutien, s'inscrit dans cette dynamique de réflexion qu'engendre la pandémie actuelle.
Je m'appelle Silène, je suis musicienne. Je passe régulièrement à l'Opéra de Lyon, occupé depuis la semaine du 15 mars par des artistes et des étudiants. Nous défendons un certain nombre de revendications qui concerne le monde culturel, ses lieux et ses acteurs, tous en danger depuis plus d'un an. J'ai réalisé ce petit collectage lors d'un après-midi à l'opéra, afin d'entendre un témoignage de ce qui s'y passe, de ce que l'on défend, et de faire savoir qu'ici, comme dans beaucoup d'autres lieux culturels en France, on se mobilise. On joue, on chante, on réfléchit, on s'organise, on déclame des textes. Car cela fait un an. Un an de quoi ? On ne précisera pas. Je ne veux pas de ces mots-là. Je veux ceux qui se disent à l'opéra, ce qu'on entend ici et là, un peu tous les jours, depuis des jours, la nuit, le jour. Ceux des artistes et de leurs conditions. Ceux des étudiants et de leurs revendications. Des mots engagés, sur les murs, sur les affiches, sur les papiers. On a des choses à dire. Dans nos voix, dans nos chants. L'opéra est occupé. Combien de temps encore ? Et donc ça, c'est quoi ? Un état des lieux, une trace de l'éphémère quand on va écouter ce qui se dit. Par là, par ici. Les mots s'échappent, s'oublient, mais ceux-là, ils sont mis en bouteille pour n'en faire qu'un cocktail. Un cocktail culturel, essentiel.
Combien de temps ?
Combien de temps encore ?
Des années, des jours, des heures, combien ?
Quand j'y pense,
mon cœur bat si fort.
Moi je m'appelle Catel.
Margot.
Moi je m'appelle Victor.
Charlotte.
Moi c'est Nolwenn.
Je m'appelle Florent.
Pourquoi je suis là ?
Pas pour soutenir la culture.
Combien de temps ?
Combien ?
Je l'aime tant, le temps qui reste.
Je veux rire,
courir,
pleurer,
parler,
et voir, et croire,
et boire,
danser,
crier,
manger, nager, bondir,
désobéir,
se voir, danser, partager des moments.
La culture peut encore exister, quoi. La danse, le chant, la musique, enfin, tout, quoi.
La culture, c'est important.
Chaque fois que je m'endors, je perds tout d'un coup tout mon corps. Pourquoi chaque nuit qui me tord me laisse toujours face à la mort ? Pourquoi dans les draps qui m'encerclent, je suis aspirée dans la mer ? Et même quand tes bras me bercent, je me perds dans ma propre chair. Est venue l'heure des grandes ombres. Pourquoi c'est seul que je sombre ?
J'occupe l'opéra depuis mardi dernier, donc ça fait 8 jours.
J'avais très envie d'être là parce que c'est des choses qui me concernent et nous concernent, et en fait, concernent beaucoup, beaucoup de gens, et plus qu'on le croit, je crois.
Je fais pas mal des manches dans Lyon et les alentours, vu que j'ai pas de date en fait, normalement je suis censé être intermittent et avoir mes groupes.
Dire qu'on est là et qu'on bougera pas tout de suite.
J'ai pas fini.
Voler,
chanter,
partir,
repartir,
souffrir,
aimer.
Je l'aime tant le temps qui reste.
Je ne sais plus où je suis née.
Ni quand.
Je sais qu'il n'y a pas longtemps.
Je suis musicienne intervenante.
Je suis musicien, j'écris des chansons.
Je suis comédienne.
Je suis tromboniste en fait, artiste de rue.
Et aussi je suis musicienne. Et médiation et développement culturel.
Et je suis étudiant au CRR en jazz.
En développement et projets culturels et artistiques.
On a besoin de danse, on a besoin de musique, on a besoin de
danseurs de hip-hop,
cinéma, on a besoin d'art
peinture,
en général.
Organiser des jams.
Mais qui sont les fous de vous à genoux ? Je ne sais pas ce qui nous attend.
C'est important de se divertir, d'avoir de l'espoir, et en fait, la culture c'est l'espoir aussi.
Bon, alors c'est vraiment un moyen de s'exprimer pour nous tous d'ailleurs.
C'est ce qui nous fait vivre aussi, c'est ce qui nous rend heureux, c'est ce qui nous donne envie d'avancer dans la vie, et c'est des petites choses qui permettent de croire un avenir meilleur, on va dire.
Je veux jouer encore.
Je veux rire des montagnes de rire.
Je veux pleurer des torrents de larmes.
Je veux boire des bateaux entiers de vin de Bordeaux et d'Italie.
Et danser, crier, voler, nager dans tous les océans.
J'ai pas fini.
Je veux chanter.
Je veux parler jusqu'à la fin de ma voix.
Je l'aime tant, le temps qui reste.
Combien de temps encore? Des années, des jours, des heures, combien?
Je veux des histoires.
Des voyages.
J'ai tant de gens à voir.
Tant d'images.
Des enfants.
Des femmes.
Des grands hommes.
Des petits hommes.
Des marrants.
Des tristes.
Des très intelligents.
Et des cons.
C'est drôle, les cons, ça repose.
C'est comme le feuillage au milieu des roses.
Et voilà.
Donc voilà, on en est là.
Nos cultures, nos futurs.
Voilà.
Ça va faire du bien de revoir un peu des concerts.
En fait, c'est super beau de voir ça sur le devant de l'opéra, quoi.
De faire de la musique. De continuer à faire de la musique.
Ah, t'as d'autres questions ?
Combien de temps encore ? Des années, des jours, des heures, combien ?
Je m'en fous, mon amour.
Quand l'orchestre s'arrêtera, je danserai encore.
Quand les avions ne voleront plus, je volerai tout seul.
Quand le temps s'arrêtera,
je t'aimerai encore.
Je sais pas où.
Je sais pas comment.
Mais je t'aimerai encore.
D'accord ?
Encore une.
Je remercie les artistes et les étudiants qui ont bien voulu participer à ce petit reportage sonore, dont le quatuor vocal de Bilkis, Elia, Axel et Nelly, avec leur composition Je ne sais pas, et pour avoir dirigé l'atelier d'improvisation vocale. Merci beaucoup aussi à Séraphin et Catel pour le texte Le temps qui reste de Serge Reggiani, et puis à Margot, Charlotte, Nolwenn, Florent, Victor pour leur témoignage. Merci beaucoup.
Résonance aujourd'hui donne la parole aux artistes, aux intermittents, à tous ceux qui œuvrent dans la culture pour faire part de leurs ressentis, de leur mal-être aussi, puisque, comme nous le savons, chers auditeurs, la culture est à l'arrêt depuis plus d'un an et que cette situation, bien évidemment, met en tension tout ce public. L'ensemble de la communauté, bien évidemment, parce que tout le monde est touché par cette affaire de Covid et de crise sanitaire, mais certains métiers, dont ceux de la culture, aujourd'hui sont en danger, des lieux sont occupés, et il est important, effectivement, que les opinions, le débat, la réflexion soient partagées par tous. C'est la raison pour laquelle Résonance, au cours de cette émission, a choisi, et aussi au cours des précédentes et prochaines émissions, donnera la parole à un certain nombre d'artistes pour qu'ils nous fassent part de leurs ressentis. Et aujourd'hui, donc, j'accueille Laura Tereda.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être ici à nos côtés, à ce micro. Et peut-être, là, il serait intéressant de voir comment vous, notamment parce que vous êtes intermittente, mm-hmm. on parle beaucoup du statut d'intermittente du spectacle, comment, du coup, depuis le premier confinement, donc il y a maintenant une bonne année, comment ça se traduit pour vous dans votre quotidien, dans votre rapport à votre métier, dans Comment se vit une telle situation quand on ne peut plus exercer son métier au quotidien ?
Alors, pour moi, du point de vue purement égoïste, on va dire, si je me situe en tant que personne et que je vais en arrière, je révisite un peu le premier confinement. Pour moi, c'était un moment de suspens, je pense, pour beaucoup de gens aussi. Pas pour tout le monde, enfin, c'était quand même très dur pour beaucoup de monde, mais moi, j'ai eu la chance de pouvoir me dire que j'avais un temps de création personnelle sans rendu, sans rien attendre derrière, où je faisais ce que j'avais envie de faire. Je me lève, je travaille et j'ai créé complètement une liberté que j'avais pas eue depuis très longtemps en fait, depuis que j'étais étudiante je pense. Donc pour moi c'était vivre ça, ça m'a permis de me dire qui suis-je aujourd'hui. Et en fait effectivement ça a été le point de départ d'un questionnement que je me suis posé après aussi, de qui suis-je aujourd'hui, pourquoi je fais ce travail, ce métier. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire aussi aujourd'hui ? Donc, ça bouscule beaucoup de choses parce que voilà, tu te poses des questions profondes sur toi.
Tout à fait.
Et en plus, autour de toi, ton monde a changé parce que tu n'es plus travailler. Bon, dans mon cas, j'ai pu continuer à travailler parce que j'avais des résidences qui ont été maintenues, des résidences payées. Donc, voilà, j'avais pas cette épée de Damoclès qui faisait que je voyais mon statut arriver. Voilà, pour moi, c'était pas du coup le cas des d'autres personnes que je rencontre aussi, et qui pour eux c'est une souffrance terrible parce que ils savent pas du tout ce qu'ils vont devenir. Et ça, je pense que je me dis que dans 2 ans, ça sera moi aussi, je serai dedans. Je pense que dans 2 ans, et tous, on sera dedans. On sera pas, à mon avis, les subventions vont être coupées de plus en plus. Enfin, on va vivre quelque chose qu'on n'a pas encore, qu'on est en train de deviner.
On est que dans une étape, en tout cas, d'un processus qui est aujourd'hui déclenché par le contexte sanitaire.
Oui, tout à fait. Et c'est ça qui me fait réfléchir aujourd'hui par rapport à mon rôle aujourd'hui en tant que citadin, citadine, et artiste aussi. Ouais. Voilà, où je me situe par rapport à ça. Moi, par exemple, je suis pas dans la logique de me dire, j'espère que tu vas être bientôt, tout sera bientôt comme avant. J'arrive pas à me dire ça, je ne veux pas me dire ça, je ne veux pas que ça soit comme avant. Et j'espère fortement qu'on génère petit à petit des choses par la souffrance peut-être aussi. Hein. Des fois, c'est par la souffrance qu'un pays se questionne et arrive à réagir.
Oui, il y a des transformations, des mutations, voire conflictuelles bien évidemment, qui peuvent aussi arriver immanquablement, qui viennent bousculer un peu les organisations, les pensées, le pourquoi aussi des choses.
Tout à fait. Et j'espère fortement que ça va devenir quelque chose de ce genre et qu'on ne deviendra pas comme avant. Et c'est vrai que ça m'a permis aussi beaucoup de voir autour de moi, parce que j'habite dans un quartier un peu pauvre, et j'ai vu des familles vivre isolées, très grande difficulté, avec des enfants enfermés. Et c'est terrible. Enfin, on a vu creuser les différences.
Les inégalités se sont renforcées.
Oui, tout à fait. C'est la chose qu'on dit souvent. Hein. On a vu ces inégalités se renforcer. Et moi, j'attendais en tout cas qu'il y ait une réponse de l'État aussi. De se dire, tiens, de se questionner sur des choses. Bon, c'est sûr que ce qui se passe aujourd'hui, l'État, il a beaucoup de choses à faire et à gérer, effectivement.
Une situation complexe, effectivement,
c'est
de gestion.
C'est très difficile.
De décision, d'organisation, comment aussi gérer cette incertitude que représente ce virus et ses évolutions.
Mais je pense que c'était le moment aussi de se dire, on y va et on prend des décisions beaucoup plus drastiques. Au lieu d'enlever des... Parce que je connais des gens qui sont dans le médical, qui me disent, ils continuent à enlever des postes à l'hôpital... Et tu te demandes comment c'est possible. Alors, ça fait un an qu'on est dedans et que ça continue à aller dans le même sens. Pour le coup, pour eux, oui, on va revenir comme avant. Et encore pire, je dirais. Ils vont profiter. On va profiter pour faire des choses qu'on n'a pas pu faire encore aujourd'hui. Et ça va passer en douce. Donc, voilà. Moi, je dirais, pour moi, en tout cas, tout ce qui se passe aujourd'hui, ça me permet de réfléchir, de me positionner. Et peut-être d'agir aussi, parce que je me suis en train de me dire, je l'ai fait déjà, parce que j'ai fait des projets dans le social, dans l'artistique et tout ça, qui me plaît beaucoup.
Qui implique aussi ces notions.
Qui implique mon travail dans la vie du quotidien des gens, et ça me plaît beaucoup.
Et ça, c'est important de voir aussi que l'artiste, il n'est pas quelque chose d'à part un fonctionnement sociétal, mais il est emprunt aussi de sa réalité qui l'entoure. Et c'est ça aussi qui vient nourrir
tout à fait.
Également aussi son propos artistique.
Oui, pour moi, il y a ça. C'est pas du tout la pédagogie ou la médiation. Hein. Pour moi, c'est des vrais. C'est ce qu'on fait avec Résonance Contemporaine. Hein. C'est des vrais projets. C'est de l'artistique. Hein. On va n'importe où, à des endroits qu'on n'y va pas peut-être souvent, et on fait un vrai travail artistique. Et moi, ça me touche beaucoup. Moi, je trouve que j'apprends beaucoup, et puis ça me fait beaucoup mijoter dans ma création, dans ce que j'ai envie de dire et dans ce que j'ai envie de faire. Donc pour moi, tout ça, c'est très positif, en fait. Je dirais que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est très positif. Ouais. Si ça amène un changement.
Ça contribue à faire changer des choses, à faire que une réflexion se dégage, une pensée se dégage, et que véritablement, on s'attaque peut-être aux problématiques d'inégalité, d'exclusion sociale ou de... qui sont très présentes aujourd'hui et qui fait que simplement la culture n'étant pas quelque chose de mis à part ou qui serait au-dessus ou réservé qu'à des spécialistes, mais bien quelque chose qui peut être nourrir justement ce que peut être le commun d'une société et faire que plein de personnes hétérogènes finalement se retrouvent.
Et d'ailleurs, ça m'énerve un peu de voir que il y a les artistes qui soulèvent un peu pour dire nous, on est nécessaire dans la société, chose qui est vrai, mais moi j'ai envie de me soulever pour la société, en fait. J'ai envie de me soulever pour mon voisin qui mange pas, pour l'autre qui a perdu son travail. J'ai pas envie de me revendiquer en tant qu'artiste aujourd'hui, forcément, en fait.
Donc c'est pas forcément sur un côté corporatiste.
Ouais, non, j'ai envie d'être une personne et dire voilà, les autres sont là et on a envie d'y aller tous, quoi. Bon, voilà, c'est mon point de vue, hein. Après, je pense que les réalités sont très différentes et quand on est effectivement aussi, j'imagine, à des gens qui vont perdre les statuts, qui ne savent pas où y aller, à mon avis, leur question qui se pose aujourd'hui, c'est d'autres questions peut-être. C'est qu'est-ce que je vais faire demain, comment je vais manger. Donc voilà, effectivement, je pense que je suis aussi placée d'une manière différente. Mais, bon.
Et peut-être ce qui est intéressant aujourd'hui, et c'est ce à quoi l'émission Résonance veut contribuer, c'est-à-dire que c'est alimenter un débat, c'est alimenter des échanges, c'est aussi dans ce rapport d'échange, même si les postures sont très différentes et les pensées sont plurielles, mais ce qui est important, c'est d'en parler, de rendre audibles aussi ces différentes postures et réflexions, pour que on espère que ça puisse aussi contribuer en tout cas à mettre en mouvement quelque chose. Et qu'effectivement, ce n'est pas forcément une volonté de retrouver des choses nostalgiquement de ce qui était avant. Parce qu'il y a aussi plein de problématiques d'inégalité et de tas de formes qu'on voyait moins. Certes, il y a eu une crise sanitaire, mais davantage en exergue, fait craquer davantage le vernis, fait apparaître toutes les choses de manière peut-être beaucoup plus comme une loupe, et donc du coup qui éclate à nos vues. Mais que... aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'entendre cette pluralité de points de vue, d'échanges, et de voir comment toute celle-ci, elle peut travailler ensemble.
Exactement. Et moi, je me dis, dans cette pluralité, je pense qu'il y a quelque chose qui serait basique aujourd'hui, et que je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas encore posés la question, c'est sur le salaire universel. De dire, maintenant, aujourd'hui, tout le monde a le droit de manger, à se loger. C'est le minimum. Et ce n'est pas le cas encore aujourd'hui. Et avec la crise, ça a été terrible, quoi. Donc, pour moi, ce serait quelque chose d'évident qu'on devrait se poser. On devrait lutter pour ça, en tout cas. Et après, voir chacun où est-ce qu'il se situe dans la société. Mais...
merci beaucoup, Laura Tereda.
Merci à toi.
Et à bientôt.
À bientôt.
Christian Seux, bonjour.
Bonjour.
Vous résidez dans un établissement d'aide par le travail, à côté de Tréfort.
Oui.
Dans l'Ain, tout proche, qui dépend de l'aide à Pays de l'Ain. Mais vous avez la particularité, comme profession, d'être musicien.
Oui.
Voilà, vous êtes membre des percussions de Tréfort depuis plusieurs années.
Oui.
Et à ce titre, vous donnez des concerts, vous êtes dans la musique au quotidien. Mm-hmm. Voilà, et aujourd'hui, notre émission, elle donne la parole à tous ceux et à toutes celles qui sont investis justement dans les métiers de la culture évoquer avec eux et avec elles leur ressenti par rapport à cette période tout à fait particulière que nous vivons depuis une année. Avec cette crise sanitaire, la présence du Covid et toutes les transformations que celle-ci a générées par son arrivée. Pour vous, en tant que musicien, justement, comment vous avez vécu cette période? Comment vous ressentez cette période que chacun, bien sûr, a vécu de manière différente, mais quel est votre ressenti?
Moi, mon ressenti, c'est que on a eu un confinement, quoi. Donc, on était séparés. du groupe de musique où je suis.
Et du coup, vous avez été séparé parce que à cause d'une présence du virus ou quelle était
du virus, oui, oui. Parce qu'il fallait qu'on soit que le virus qu'on soit protégé, quoi.
Oui,
donc,
bien
voilà,
sûr.
Donc, on a été séparé avec les internes puis les externes. Et vu que mes collègues musiciens sont externes et que c'est moi seul qui suis interne, donc j'étais obligé d'être séparé. Mais je l'ai vécu, ben disons que je l'ai pas. Il y a des moments où je l'ai vécu, bien vécu, mais d'autres moments où c'était pas
facile.
Pas facile, non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr.
C'est une période qui a duré longtemps pour vous, cette séparation entre les membres qui constituent les percussions de Préfort.
Oui, quand même, assez longtemps, oui. C'est... Et ça m'a. Quelque part, c'était pas un mal parce que ça m'a fait réfléchir. Ça m'a dit. Ça m'a donné envie de me. De me ressourcer autrement. Bon, moi, j'aime bien le dessin, donc je me suis ressourcé dans le dessin. Mais je pensais toujours à la musique. Donc, en se ressourçant dans le dessin, on peut ouvrir une voie. Qui peut. Transformer le dessin que je fais en musique, quoi. Et ça me... Et ça, je trouve ça très enrichissant.
Donc du coup, en même temps, ça vous a permis de peut-être repenser ce que c'était votre posture de musicien, de votre rapport à la musique, quel sens avait pour vous, même si le dessin était une manière de venir questionner ou voire même enrichir, comme vous disiez.
Oui, tout à fait.
Mais ça a été un peu une période de questionnement par rapport à ça.
Voilà, tout à fait. Ça m'a... Et justement, le temps que ça a duré, quand j'ai pu regagner le sein des percussions, je me suis senti tout de suite mieux, tout de suite moins à l'écart. Je me suis dit, ça y est, on a retrouvé notre groupe, donc on va pouvoir faire des trucs ensemble, et puis ça fait du bien de retrouver ses collègues, et
bien sûr.
Surtout ne pas se renfermer sur soi-même, parce que quelque part, ça m'a un peu fait ça.
Vous avez senti qu'il y avait ce danger ?
Il y avait ce danger. Et donc, non, pas du tout. Quand justement, j'avais envie de revoir mes collègues, j'avais envie de sortir, de ne pas rester enfermé. Et justement, aujourd'hui, ça va mieux, parce que justement, on apprécie, même si on ne fait pas de concert pour l'instant.
Oui, parce qu'il y a aussi ça, c'est qu'aujourd'hui...
Oui, c'est les concerts qui sont importants, c'est vrai. Ça, je reconnais.
En tout cas, c'est un moment important.
Oui, oui.
Mais donc, du coup, vous en êtes un petit peu privé vu de la situation,
oui,
puisque toutes ces manifestations sont interdites pour le moment.
Parce que oui, les concerts, bon ben, il y avait des concerts de prévus qui sont annulés justement à cause de ça. Et donc, il y a beaucoup de changements, beaucoup de brassements, de choses qui sont faites et qui ne sont pas faites.
Ça veut dire aussi que vous avez pu quand même, jusqu'à aujourd'hui, maintenir quand même du temps de travail.
Oui, oui, oui. Bah oui, on est en répétant justement. Puis rien que le fait de sortir du centre et puis aller autre part, pas bien loin, par exemple, bah, d'aller dans la salle des fêtes de Tréfort, la mairie, et puis d'autres salles aux alentours. Et bah rien que ça me dit que bon, ben, non, nous, on n'a pas fini, il y a encore du chemin à faire, et je trouve que ça, pour nous, pour moi, c'est un truc très important.
C'est ce qui vous donne un peu du ressort, je dirais, dans la période que nous traversons aujourd'hui.
Oui, oui, oui.
De dire, il y a encore des choses à faire, il y a encore des choses à construire.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait.
Et vos collègues musiciens, vous échangez avec eux, comment ils vivent aussi cette situation ?
Ben, pas dire qu'ils le vivent bien, mais bon, ils font avec, hein, comme on dit. Donc, mais aussi ça les touche quand même. Quand même, cette période. Hein, donc on fait en sorte justement d'être ensemble, de faire de la musique justement pour oublier. Enfin, on ne peut pas oublier ça, mais pour atténuer les mauvais côtés et puis prendre les bons côtés des choses, quoi.
Et là, vous avez beaucoup de choses en travail en ce moment, en répétition ?
En répétition, on a des choses, oui. On a pas mal de choses, donc on en profite et puis ça nous fait du bien.
Merci, Christian Seux.
Merci beaucoup.
Nous continuons dans cette émission d'accueillir des artistes, qu'ils soient comédiens, qu'ils soient musiciens, chanteurs ou plasticiens, pour nous faire part de leurs ressentis à travers la crise que nous connaissons bien tous depuis un an. Ce moment si particulier dont le Covid-19 a généré une multitude de situations. Il est vrai que on parle de certaines professions du monde artistique, mais on ne parle pas très souvent quand même des plasticiens, de leur situation, des artistes peintres. Et j'ai à mes côtés Karine Chantelat, bonjour.
Bonjour.
Voilà, qui est plasticienne et avec laquelle nous allons pouvoir aussi échanger et voir aussi pour vous comment ça se passe depuis un an. Effectivement, on dit qu'on parle moins des peintres et de leur situation. Comment ça se passe pour vous ?
Alors, c'est vrai que depuis un an, en fait, il s'est passé plusieurs périodes, oui. On va dire. Avec cette première période, je pense que qui a été assez longue et qui a été assez surprenante. Une fois un petit peu cette surprise passée, je crois qu'en tout cas, moi, j'ai eu la chance d'avoir la possibilité d'être dans mon atelier avec ma famille autour de moi. Un jardin, et oui. Je dois dire que en comparaison à d'autres, j'ai vécu cette période de manière assez... agréable et même, même c'était une sorte de liberté, cette notion du temps étant en suspens, je dirais, la création pouvait se faire à n'importe quel moment, sans échéance, sans projet réel, mais avec une sorte de fluidité.
Et donc un rapport au temps
un rapport,
autres.
C'est toujours le rapport
voilà.
au temps
et, qui est toujours bien
et,
sûr
et
là,
notamment mais... quand on travaille avec des projets personnels et qui sont sur la continuité parfois avec des échéances parfois pas et du coup ça permet effectivement de rentrer dans une sorte de pas de lenteur mais de continuité
c'est ça.
En fait voilà. Et donc ça c'était vraiment je crois absolument fabuleux et exceptionnel
je dirais. Exceptionnel d'avoir un temps
ça, on sait jamais, on l'a vraiment ce temps comme ça, sur une si longue période. Donc c'était plutôt, et tout le monde était, et je crois qu'il y avait aussi cette notion-là, moi, qui était importante, c'est que tout le monde était dans ce cas-là.
C'est ça.
À part, bien sûr, les soignants qui étaient, qui travaillaient très fortement, etc. Mais en tout cas, de tous les amis artistes, tous les gens que je pouvais connaître, ou même d'autres professions, on était tous, voilà, à pouvoir...
dans ce temps arrêté.
Tout à fait. Et puis ensuite...
Mais pas tant que ça, puisque c'est un temps générateur et de création.
Oui, générateur. Et de là, vraiment, c'était ça. Et sans angoisse, vraiment, avec beaucoup... vraiment de la richesse de création.
Ça.
Et puis après, on a eu cette deuxième... l'été passant, deuxième période, un petit peu plus compliquée, là, parce que du coup, à vouloir se remettre dans des projets, sans que ce soit effectivement dans l'avant, parce que de toute façon, il s'est passé quelque chose.
C'est ça.
Et de se remettre dans des projets, de renouer le contact avec l'extérieur, parce qu'il y a cette notion-là, parce qu'on ne peut pas créer que pour
soi.
Et de proposer des travaux à l'extérieur. Et ça, ça devient compliqué à partir de septembre.
C'est-à-dire que des choses prévues se sont défaites, se sont annulées.
Voilà, s'annule, se reporte sans arrêt. Une projection dans le très loin, un peu plus compliqué. Et avec cette notion de non-sens, de ne pas savoir. Et en fait, du coup, là, la création devient compliquée également.
Oui, parce qu'on rappelle que toutes les expositions n'ont plus lieu, ne peuvent se tenir.
Il y a des annulations.
Il y a des
interruptions en cours.
C'est ça.
Il y a des choses qui ne se feront pas.
Oui, voilà. Il y a vraiment l'annulation et puis il y a vraiment les choses qui sont définitivement perdues, entre guillemets.
Et puis, il y a quand même des choses qui sont entreprises, mais avec une sorte de vague, une sorte de mystère et... qui n'est pas très confortable au final. Mmh, c'est ça. Alors bien sûr, on s'arrange,
on trouve des modalités.
Des modalités différentes, on trouve beaucoup de soutien, beaucoup de...
Est-ce que ça renforce aussi, vous, comment vous le percevez? Quelquefois, on a parlé de solidarité, bien sûr, qui se sont déclenchées. C'est quelque chose que vous sentez ou c'est quand même particulier?
C'est alors un peu, c'est quand même intéressant de sentir que les gens sont là et on entend beaucoup de choses, beaucoup de soutien, et en même temps on se retrouve vraiment seul. Enfin, moi je trouve qu'il y a quand même une grande solitude à devoir créer de cette manière-là, en fait. Et c'est ce qui se passe là maintenant. Moi je n'attends pas à ce que ça redevienne comme avant, parce que de toute façon c'est pas possible. Par contre, je suis vraiment très curieuse de
qu'est-ce qui va devenir,
qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que... Et j'ai pas, pour l'instant je suis un peu dans une sorte de questionnement vis-à-vis même de ma pratique.
C'est ça.
Et de mon positionnement dans la société. Je sais que je ne peux pas faire autrement, mais par contre, je ne sais pas comment maintenant le faire.
C'est ça. C'est pas forcément une remise en cause de votre posture d'artiste.
Non, ça, et de toute dire façon, je peux m'exprimer à travers ça. La posture d'artiste, elle est. On est comme ça. Après, est-ce qu'on va pouvoir continuer à pouvoir la partager et puis ensuite en vivre? Ça, c'est encore autre chose.
C'est une de vos inquiétudes de dire, est-ce que je pourrais à nouveau partager?
Oui. C'est une inquiétude, en tout cas, partagée de manière fluide. Parce que toujours se battre aussi, c'est parfois...
Épuisant.
Épuisant. Et c'est épuisant pour la création.
Aussi.
Parfois, on n'est pas... Ça nous empêche de créer. Voilà. Je crois que... C'est pas négatif, en fait, tout ça, mais c'est un constat. Je crois que c'est vraiment ce qui se passe actuellement. Il y a du mouvement, ça change. Il va falloir trouver ses marques et continuer en changeant.
Merci, Karine Chantelard.
Merci beaucoup.
Nous sommes le 31 mars 2021, il est 8h35 et l'opéra se réveille, ouvert, jour d'occupation et d'ouverture, numéro 16.
Plus rien n'existe. En vérité, je me le dis, plus rien n'existe. La culture est morte comme l'art, tout est triste.
Aujourd'hui, à l'opéra, vous pourrez assister à 16h. À un concert de Cheers Dude, à 17h, à une conférence d'Olivier Neveu, à 18h30, une formation à la désobéissance civile non violente par Extinction Rébellion, une multitude d'événements artistiques impromptus tout au long de la journée.
Plus de saisons, printemps, été, automne, hiver, plus aucune couleur, plus de rouge ou de vert.
Actuellement en France, plus de 90 théâtres sont occupés pour exiger la prolongation de l'année blanche pour les intermittents et intermittentes, son élargissement à tous les travailleuses précaires, extra et saisonnières entre autres.
Des mesures d'urgence face à la précarité financière et psychologique des étudiants et étudiantes.
Un plan d'accompagnement des étudiants et étudiantes du secteur de la culture en cours d'études.
Le retrait pur et simple de la réforme de l'assurance chômage et de la loi sécurité globale.
Un financement du secteur culturel passant par un plan massif de soutien à l'emploi.
La mise en place d'un revenu universel pour les moins de 25 ans et les étudiants et étudiantes afin qu'elles puissent se loger, se nourrir, étudier et vivre dignement.
La réouverture des lieux culturels,
la réouverture des lieux culturels et écoles d'art dans le respect des consignes sanitaires.
La réouverture des facs dans le respect des consignes sanitaires. L'abandon pur et simple du projet de loi contre le séparatisme.
Les astres ont disparu, la lune et le soleil. Sur la terre ou dans l'univers, plus de merveilles.
Aujourd'hui, Il fera beau et chaud toute la journée, de plus en plus chaud chaque jour. La température atteindra 26 degrés Celsius dans l'après-midi.
Les sentiments bannis, plus personne ne s'aime. Tout s'est volatilisé, que faire en poème? Tout est perdu, alors qu'écrire?
Nous serons là toute la journée, la nuit, et les nuits et les jours à venir, jusqu'à ce que nos revendications soient satisfaites. L'opéra est ouvert à toutes et tous. N'hésitez pas à venir, à entrer pour échanger et à participer à cette occupation. Tout le monde est bienvenu.
Merci surtout aussi à tous les gens de l'opéra qui sont ici tous les jours et qui soutiennent cette cause.
Bonne matinée, bonne journée.
Résonance sur Radio B. Le printemps est inexorable pour la culture. Nous venons d'entendre le deuxième reportage réalisé par Silène Sautreau, Qu'est-ce que tu dis à l'Opéra Dièse 2. Elle tenait à remercier justement les artistes qui lui ont permis de réaliser ce reportage. Un reportage sonore, enregistrement, montage, son et vidéo réalisé par Silène Sautreau, musicienne. Le collectage a été réalisé le lundi 29, mardi 30 et mercredi 31 mars dernier devant l'Opéra de Lyon. Elle souhaite adresser un merci aux artistes, à Winnie pour le discours du cri du coq, à Jean Eldar pour son poème « Plus rien n'existe », à Anna et Silène pour le concert du duo Charango Violon, à Alex, Sabrina, Mathia, Marjolaine, Blandine, Thilo, Nils, Julia et Jean Eldar pour la lecture des revendications. En contrepoint, à ces points de vue que nous venons d'entendre et à ceux que nous allons continuer de découvrir, je vous lis en contrepoint donc un extrait de l'ouvrage de Miguel Benessayad et de Bastien Cani intitulé « Le retour de l'exil » paru aux éditions Le Pommier. Quel type de lien pouvons-nous tisser dans une société sans contact? Or, justement, l'élimination du contact, du toucher et des corps contribue à la diffusion du pessimisme actuel. Car sans contact, il est tout bonnement impossible de développer un imaginaire qui est la condition de production des possibles. Les liens à distance permettent en effet de conserver et d'entretenir des relations avec les autres. Mais il serait naïf d'ignorer que l'instrument de la transmission formate très fortement le contenu de cette transmission. Ce que nous pouvons dire, penser et partager à travers les machines est à la fois le rendu possible et limité par la machine elle-même. Aussi serait-il dommage qu'ébloui par les possibles de la communication sans contact, nous en venions à oublier l'infinité des liens et des dimensions qui se déploient bien au-delà et malgré la conscience. Fin de citation. Vous êtes toujours dans Résonance sur Radio B et nous accueillons aujourd'hui, tout au long de cette émission, des artistes, des comédiens, des directeurs de théâtre et puis aussi des reportages, comme nous avons pu l'entendre, de lieux occupés et de musiciens intermittents qui ont exprimé leur point de vue et quelquefois, bien sûr, au-delà de ces artistes, d'autres gens, d'autres personnes qui aussi s'inquiètent de la situation de la culture aujourd'hui et plus largement du fonctionnement de notre société. Asma Aloui, bonjour.
Bonjour.
Asma Aloui a bien accepté de venir à ce micro. Vous êtes musicienne?
Oui, je suis musicienne professionnelle.
Voilà, vous faites partie depuis plusieurs années des percussions de Tréfort.
Oui.
Et un ensemble composé de musiciens professionnels en situation de handicap et dont l'établissement dépend de l'ADPI de l'Ain.
Oui.
Comme beaucoup de musiciens, comme beaucoup d'artistes, comme beaucoup de comédiens, depuis un an, il y a eu un arrêt majeur, finalement, qui s'est imposé à tous, de nos différents métiers, de nos activités, et particulièrement aussi de la culture. Comment vous avez ressenti dans un premier temps le fait d'être obligé d'arrêter votre métier, de ne
pas pouvoir donner des concerts, de ne pas pouvoir aller à la rencontre d'un public, et tout simplement de faire votre travail de recherche, de musicienne. Comment ça s'est manifesté en vous? Comment vous avez ressenti toute cette période?
Bah, c'était une période un peu bizarre et puis un peu angoissante,
ouais.
Parce qu'on ne savait pas où on allait, on ne savait pas quand ça allait rouvrir et quand on allait vraiment pouvoir faire notre métier.
Mmh.
Et voilà, c'était un peu... C'est un peu compliqué même de se projeter. On se pose beaucoup de questions. Est-ce que on a encore le droit d'aller au cinéma? Est-ce qu'on a encore le droit d'aller dans des salles de théâtre? Parce que maintenant, depuis qu'il y a la Covid, eh ben, ils ont fermé tout ça et ils peuvent pas rouvrir. Et après, je me dis aussi pourquoi d'autres enseignes ont droit d'accueillir des gens et pas la culture. En fait, c'est comme si ils ont fait mourir la culture et vous avez juste le droit d'aller au travail, de rentrer chez vous et de fermer votre bouche en parlant poliment. Et moi, tout ça, un peu, ça me met en colère parce que on a besoin pour vivre, on a besoin de la culture, on a besoin des salles de théâtre, des salles de cinéma, des salles de danse, d'aller danser, de faire tout ça, quoi.
Oui.
C'est la vie.
Absolument, Asma Louis. Et on sent qu'il y a une colère très forte sous-jacente en vous, depuis qui s'accumule au cours de tous ces mois.
Bah oui, parce que moi, je comprends pas pourquoi...
On laisse ouvert certaines choses et qu'on enferme d'autres.
Qu'on enferme d'autres, en fait. C'est comme si on était des robots, en fait. On vit plus. On nous indique qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Oui, on nous indique. On nous dit, on nous laisse plus le choix. On n'a plus le choix, oui.
Et là, ça fait un an que cette chose dure.
Oui, ça fait un an que ça dure. Et on sait pas. Moi, je me pose beaucoup de questions. Comment on va s'en sortir et comment on va ressortir de la Covid aussi? Dans quel état? Et puis psychologiquement, physiquement, voilà.
Vous sentez que tout ça vous bouscule très fortement aussi intérieurement.
Oui, ça me bouscule beaucoup et ça me questionne beaucoup aussi. Pourquoi on a accepté quand la Covid a arrivé de tout? Pourquoi on a accepté de rien dire? On aurait dû manifester, d'aller dire notre mécontentement. Pourquoi d'autres lieux ont le droit d'ouvrir et pas d'autres?
C'est ces inégalités-là qui nous frappent de plus en plus. Hein, on exclut certaines choses, on renforce des inégalités et on n'en donne pas forcément les raisons véritables.
Oui, on ne donne pas les raisons véritables. Après, je ne dis pas que les autres ne sont pas essentiels aussi. Mais de trouver un équilibre avec tout ça, après avec tous les protocoles qu'ils mettent, moi je trouve qu'ils peuvent rouvrir les cinémas, bien sûr, avec des protocoles bien précis bien précis. Toutes les salles de théâtre, pouvoir aller voir un concert, voilà.
Aujourd'hui, en tant que musicienne, vous pouvez quand même un peu travailler?
Oui, heureusement, on peut continuer à travailler entre nous, avec notre groupe. On peut continuer à travailler, à chercher des idées, à créer. Heureusement qu'il y a ça, ou sinon je sais pas comment j'aurais fait. Je sais pas.
Le fait de pouvoir quand même continuer à imaginer, développer des espaces de création, c'est quelque chose qui vous aide, qui vous semble aussi encore plus qu'essentiel aujourd'hui et qui vous aide à essayer de vivre cette situation, essayer de la comprendre à travers les chemins de création.
Oui, quand je me lève le matin, moi je suis contente d'aller d'aller justement travailler avec mon groupe, avec les percussions de Tréfort, pour pouvoir jouer ensemble, créer de la musique, travailler des partitions. Et pour moi, c'est important parce que on vit et on fait notre métier, quoi. On ne nous met pas des bâtons dans les roues pour faire tout cela.
Donc, un espoir peut-être?
Oui, j'ai un espoir que ça s'améliore et qu'on puisse retrouver une vie à peu près normale, même si elle ne sera pas normale. Il y aura toujours des restes de Covid, mais j'ai toujours un espoir qu'on retrouve des salles, qu'on aille voir des concerts, des cinémas, qu'on vive, quoi, qu'on retrouve cette liberté et cette liberté d'aller voir un concert ensemble, d'aller au cinéma, voilà, au théâtre.
Merci Asma Alouie. Bonjour Vincent Roche-Loca.
Bonjour Alain.
Merci d'être à notre micro aujourd'hui et de pouvoir échanger avec nous sur aujourd'hui la situation de la culture, comme on le sait, est assez meurtrie de toute une séquence qui dure déjà depuis plus d'une année et qui met un peu non seulement ce secteur-là, mais l'ensemble de la population et de son fonctionnement dans une attitude complètement inattendue et qui bouleverse à la fois nos manières d'être en lien, d'être manière avec les autres, et vient bousculer aussi fortement la place de la culture, puisque ces lieux, même s'il y a eu des moments de reprise légère, elle est bien perturbée, voire meurtrie par beaucoup de choses et en grosse difficulté. Alors peut-être ce serait ma première question, c'est le regard que vous pourriez porter sur toute cette période que vous venez de passer, de comment vous portez un regard sur celle-ci, de comment ça s'est passé aussi avec votre équipe et aussi avec le public qui lui aussi avait ses habitudes de venir ici dans ce lieu qu'il affectionne aussi bien évidemment. Quel regard portez-vous sur toute cette période complètement inédite?
La question est très très vaste vu tout ce qu'on a vécu de manière très historique depuis un an. Donc on est passé par tout type d'émotions, par tout type de séquences. Il y a eu presque une vie en un an depuis le printemps 2020, donc la question est très très vaste. Évidemment, tout ça est teinté d'une certaine tristesse, puisque la situation planétaire et mondiale est quand même compliquée. Voilà, on voit beaucoup de problématiques au niveau sociétal, au niveau social, au niveau des inégalités, donc avec beaucoup de métiers en première ligne. Donc le premier sentiment, je pense que le plus important, c'est un sentiment d'humilité par rapport à tout ça.
Oui.
Après, si on regarde un petit peu du côté plutôt de la culture et des métiers que nous exerçons, pour lesquels nous dédions toutes nos vies et nos carrières, c'est vrai qu'il y a là aussi beaucoup de choses à dire. Mais avant toute chose, peut-être j'ai envie de garder les points les plus positifs que tout cela, parce que ça nous invite à une énorme introspection.
C'est ça.
Et à reconsidérer ce qu'on faisait avant la crise. Et du coup, voilà, il y a beaucoup de choses en questionnement actuellement, et j'espère que très bientôt, la mutation du lien de la culture aux citoyens va se modifier grandement. Donc voilà, j'essaie de garder cette
vision des choses,
cette vision positive du verre à moitié plein de tout ce qui est en train de d'émerger comme nouvelle énergie, même si tout ça est teinté aussi de grandes inquiétudes sur le niveau de précarité d'un certain nombre de nos collègues dans le secteur professionnel, et je pense notamment aux TPEA, les très petites entreprises artistiques.
Tout à fait. C'est vrai qu'une période comme celle-ci, qui à un moment donné, on l'a vu au premier moment avec le premier confinement, met à l'arrêt, invite à des tas de choses, et notamment à avoir une autre temporalité, le fait qu'on est bloqué aussi à un moment donné, à réfléchir différemment, à se poser des questions sur le sens aussi peut-être de ce que l'on faisait. Et tout cela n'est pas négatif, effectivement, vous avez raison de soulever aussi de cette manière-là. Il y a des contraintes, il y a des difficultés, bien sûr, mais en même temps, elle nous oblige les uns et les autres, à l'endroit où nous sommes, finalement, nous interroger nous-mêmes, à interroger nos modes de relation, notre place aussi, nos rôles, finalement, aux endroits où nous sommes acteurs dans cette société. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose de pertinent aussi dans cette période. Et c'est vrai qu'en évoquant avec d'autres artistes, pour certains, ça a été une manière de prendre du temps, quelque part, pour réfléchir à leur démarche artistique, voire pour la renourrir sur certains aspects. voire pour se dire aussi, peut-être se remettre en cause quelque part, aussi sur certains chemins peut-être qu'ils avaient commencé d'entreprendre.
Oui, c'est complètement ça, c'est complètement vrai. Moi, je suis passé par plusieurs périodes et plusieurs phases dans les états d'esprit depuis un an. C'est vrai que on a pris ce confinement forcé de mars 20 comme une pause salutaire dans nos vies parfois frénétiques. Et puis, assez vite, ça s'est transformé et notamment la perte de sens dont vous témoignez est arrivée assez vite. Notamment, je le vois très fort pour les équipes des lieux, puisqu'on était coupé de nos bénéficiaires, de nos destinataires, c'est-à-dire les artistes et les usagers.
Ouais.
Et quand on est coupé des deux, se lever le matin pour mettre tout son énergie au service du rapprochement de l'un et de l'autre, pose question.
Effectivement.
La reprise de début juin à fin octobre a été quand même assez salutaire. On a retrouvé notamment assez peu, nous, sur l'été 21, puisque vu le fonctionnement des théâtres en saison, on était en bout de saison. Ça a été très compliqué pour nous de se réorganiser en urgence pour l'été 21.
C'est ça, oui.
L'été 20, pardon. Mais sur septembre-octobre, on a retrouvé beaucoup d'allants, beaucoup de sourires, des usagers, des artistes, des partenaires, des équipes, des salariés. Donc on a retrouvé beaucoup de sourires et c'est vrai que ce deuxième confinement dans lequel on vit toujours d'ailleurs, ces annonces fortes de fin octobre, début novembre, ont créé d'autres ressentiments, notamment une lassitude, une incompréhension. Ouais. Et on est aussi toujours un peu l'un dedans, et puis on n'était pas complètement à l'arrêt, on n'est pas complètement à l'arrêt.
C'est ça.
C'est peut-être moins visible pour le tout public, parce que ce qui nous manque cruellement aujourd'hui, c'est la relation notamment aux adultes, mais notamment dans ce théâtre depuis presque 5 mois. Les trois pendants de l'activité qui nous reste, c'est-à-dire les résidences d'artistes, l'action dans les écoles, et puis pas mal d'activités pour les mineurs dans les salles des fêtes, tout ça fait qu'on n'a pas chômé depuis 4 ou 5 mois. Donc
oui, ça, je crois que c'est important, cet aspect-là, qui est effectivement souvent méconnu, mais que l'ensemble des lieux de diffusion, en tout cas, voire même certains festivals dans leur manière de fonctionner, ont essayé en tout cas de maintenir ce lien avec les équipes artistiques, de les accueillir en résidence, de permettre des continuités de travail, et ça, c'était quelque chose d'essentiel.
Oui, on le faisait déjà avant.
Oui, c'est ça. C'est pas de la nouveauté. C'est simplement que ça s'est accentué par les
clairement,
choses.
Clairement, on a musclé ces choses-là. Encore une fois, les trois. C'est les trois parties que je viens de citer. Éducation artistique dans les écoles, résidence et soutien aux créations et aux artistes qui répètent dans nos murs, et activités dans les salles des fêtes. On va pas parler de spectacle, on va parler de l'activité culturelle, parce que c'est ce qui nous est permis. Mais
c'est ça.
On a fait pas mal de représentations dédiées aux scolaires. Donc ça,
c'est là où ça fait une contradiction finalement. On vous permet de faire dans un tel cadre et finalement vous ne pouvez pas accueillir des enfants ici dans des conditions sanitaires tout à fait organisées, prévues dans le théâtre en tant que tel. Là, il y a un aspect de paradoxe et de contradiction.
L'incompréhension et la lassitude, elle naît effectivement de ce type de déséquilibre.
C'est ça.
On a beaucoup aussi entendu la culture clamer l'inéquité au regard des centres commerciaux pleins, des transports en commun pleins. Et c'est vrai que là aussi, ça a créé de l'incompréhension.
C'est ça.
Mais je pense l'incompréhension, elle est encore plus forte d'imaginer que depuis un an, on nous propose un métro boulot dodo et que le reste n'est que la cerise sur le gâteau.
C'est ça.
Et donc ça fait un curieux modèle de société.
Complètement.
Et
je crois que c'est ça qui en ressort, c'est effectivement ça, ce que vous exposez, justement cette incompréhension forte, mais cette analyse qu'on en fait, effectivement, de rester dans un métro, boulot, dodo, point barre, et pas d'expression, pas de possibilité d'aller ailleurs, d'exprimer des pensées autrement.
Oui, c'est aussi toute la difficulté de la culture de faire entendre sa voix comme essentielle. Je ne vais pas vous faire tout le débat qui existe aujourd'hui là-dessus. Mais c'est vrai que une fois qu'on a satisfait les besoins primaires, certains pensent que c'est qu'après que vient la culture. comme une fois qu'on a le ventre plein et qu'on peut s'adonner à des loisirs, on a une autre conception de
complètement de ce que peut être la culture, effectivement.
Voilà, de à quoi sert l'art dans la société. Mmh. Et donc du coup, on a du mal à faire entendre cette voix-là. Mmh. Mais c'est bien, ça nous permet de aussi reconsidérer nos arguments, de se reposer la question de pourquoi notre secteur professionnel n'arrive pas à être uni comme le sont d'autres.
Tout à fait.
Parce qu'il est tiraillé en interne de plein de choses.
Oui, complètement. Et on le sent de plus en plus, d'ailleurs. Hein. Les tensions montent et on sent bien que ces tiraillements sont de plus en plus à jour.
Oui, oui. C'est vrai que pour faire entendre notre voix, il faut qu'on soit tous sous une même bannière. Et qu'aujourd'hui, les festivals, ce ne sont pas les activités en saison.
Oui, c'est certain.
Les problématiques des artistes, des lieux et des festivals ne sont pas toujours les mêmes. Les problématiques du privé et du public se sont accentuées.
Oui.
Quand une ministre de la Culture nous parle indifféremment, que ce soit certains dont le modèle économique c'est de dépenser 1 euro pour en récolter 2 et d'autres de dépenser 4 euros pour en récolter 1, c'est pas qu'une vue comptable de l'esprit, c'est que la notion d'intérêt général et service public est chez certains et la notion de rentabilité est chez d'autres.
Absolument.
Et en plus de ça, sans forcément ennuyer vos auditeurs avec tout ça, mais le monde du spectacle vivant n'est pas celui des arts visuels. Celui des arts visuels n'est pas celui du patrimoine, qui n'est pas celui du livre et de la lecture. Donc il y a aussi un spectre de la culture qui est très large. Tout ça crée de l'agacement, de l'incompréhension, et particulièrement... on a évidemment beaucoup de conscience et de respect pour la situation sanitaire de ceux qui se battent pour celle-ci et que le virus recule.
C'est une évidence, oui.
Mais on nous propose un semi-confinement depuis 5 mois où le virus circule.
Oui.
Ce n'est pas faute des lieux culturels qui sont fermés.
Absolument.
Mais le virus circule parce qu'on continue de s'entasser à d'autres endroits. Tout ça interpelle. Tout ça interroge sur la gestion de la crise sanitaire et surtout la considération qui est celle de la culture.
Oui, là, je crois que vous touchez un point essentiel, effectivement, et que provoque justement cette crise sanitaire, même si toutes ces choses-là sont sous-jacentes depuis très longtemps, mais peut-être les pousse encore de manière beaucoup plus exacerbée, vu le contexte, vu les mesures qui sont prises, et interpelle en profondeur, effectivement, notamment tout ce que vous avez soulevé sur le point de vue de la culture, de sa présence, mais aussi de fait que c'est aussi un bien commun, la culture. Ce n'est pas uniquement... effectivement, une espèce de rationalité. Alors, c'est des points de vue, bien sûr. Et là, on sent bien qu'il y a ces points de vue s'affrontent aussi également, et qu'il n'est pas toujours facile de faire entendre aussi d'autres points de vue qui ne fonctionneraient pas sur ces principes de réalité, de marchandisation ou d'autres postures économiques.
Non, mais c'est vrai qu'on a tendance à mélanger beaucoup de choses dans l'expression d'une volonté de la culture et d'un message de... que ce soit la réouverture des lieux, que ce soit... l'arrêt de l'assurance chômage, enfin de la réforme d'assurance chômage, que ce soit la problématique de la jeunesse, on mélange beaucoup de considérations en même temps, et en plus pour les porter, les gens sont très disparates et très diverses, donc forcément ça a du mal à être entendu, mais c'est bien, ça apprend à Madame la Culture à aussi se reposer la question. Je crains beaucoup que, à force de clamer d'être à part, elle n'est pour certains plus nulle part. J'ai toujours en tête, moi, ce document de préconisation à l'ensemble des maires de France en mai 2020, donc au moment de la première réouverture, où il y avait un document de préconisation porté par l'AMF, donc l'Association des maires de France, où il était expliqué que, après le premier confinement, il y avait une espèce de mode opératoire pour réouvrir progressivement.
Effectivement.
Et que du coup, il fallait d'abord réouvrir les écoles, puis réouvrir les commerces, puis réouvrir les services publics, et ainsi de suite. Et en 8e arrivaient les piscines, et en 9e arrivaient les lieux culturels.
C'est ça.
C'est assez parlant dans le comment de
la vision qu'on peut en avoir.
On a reculé dans le niveau des priorités de la puissance publique, c'est indéniable.
Ouais, complètement.
Mais je pense qu'il faut qu'on balaye devant notre porte. Y a trop de projets culturels qui ne rencontraient plus l'adhésion du public et que on a été on n'est pas que tributaire de ça, on est aussi responsable de ça, je pense. Quand je dis on, c'est le secteur professionnel.
Bien sûr. Donc là, du coup, c'est quelque part appelé à une réflexion, à une mise à plat, peut-être au cours de ces prochains mois, imposé par le contexte, mais en même temps qui peut être une ressource aussi, effectivement, qui peut être aussi sur d'une nouvelle vitalité et une nouvelle dynamique si on arrive à se reposer ces questions avec lucidité et réalité.
Oui, oui, oui. C'est une formidable opportunité qui nous est offerte de reconsidérer la manière dont ça marchait avant. Alors attention, je ne veux pas dénigrer tout le système comme il était avant. Je l'entends que trop en ce moment dans les revendications, notamment dans les occupations, que avant le secteur culturel n'était pas un assez grand nombre, qu'il y avait trop de précarité avant chez les uns, chez les autres. Je l'entends très fort en ce moment.
Ouais, ouais.
Il ne faut pas omettre ce qu'était le maillage des festivals, le nombre de compagnies et d'artistes aidés ici ou là, la diversité des propositions telles qu'elles étaient, les salles étaient pleines, les festivals rencontraient leur public, il y avait un formidable maillage de... Donc oui, il y avait des perdants avant, j'en ai absolument conscience et il faut qu'on rectifie ça, mais attention à ne pas casser non plus intégralement un système qui quand même avait des vraies vertus et aussi des vrais écueils qu'il faut corriger, mais voilà,
qu'il faut entendre, qu'il faut analyser, mais la stigmatisation et la manière n'est pas non plus la solution, effectivement.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Vincent Rocheleca. En tout cas, cette émission d'aujourd'hui se veut plurielle, se veut justement, et on l'entend dans vos propos, appeler un débat, une réflexion, ce qui n'empêche pas d'avoir des idées différentes, mais justement qu'il soit pluriel, serein, et qu'il puisse être une manière aussi de prendre des hauteurs de vue aussi sur une situation pour essayer d'en dégager ensemble, en tout cas, les pistes qui nous sembleraient peut-être... nous ouvrir d'autres horizons, en tout cas, que ceux que nous connaissons aujourd'hui. Merci beaucoup.
Merci Alain.
Je vous livre un second contrepoint, toujours extrait de l'ouvrage de Miguel Benessayad et de Bastien Cani, donc extrait de leur ouvrage intitulé « Le retour de l'exil » paru aux éditions Le Pommier. Par point de vue. Il faut comprendre ces agencements objectifs à la fois pré... Résonance sur Radio B, le printemps est inexorable pour la culture. Je voudrais justement vous livrer un deuxième contrepoint, toujours de Miguel Benessayad et de Bastien Cani, un extrait qui provient de leur ouvrage intitulé « Le retour de l'exil » paru aux éditions Le Pommier. Et voici ce qu'ils nous disent. Par point de vue, il faut comprendre ces agencements objectifs à la fois produits du vécu et producteurs d'expériences concrètes qui fondent des positions différentes. Ce qui nous conduit à comprendre que les sujets n'ont pas un point de vue, mais inversement, que c'est le point de vue, dans son caractère objectif et situationnel, qui fait émerger et donne son être au sujet, dans le sens où chaque situation est un point de vue. C'est pourquoi ce qui pourrait rationnellement créer un commun universel se heurte inévitablement à une multiplicité irréductible. » Fin de citation. Donc un très grand merci aux participants à cette émission d'aujourd'hui, à Silène Sautereau et ses reportages sonores à l'Opéra de Lyon occupé. Merci à Asma Aloui, Karine Chantela, Laura Tereda, Christian Seux, Vincent Rocheleca, d'avoir accepté notre invitation. Résonance sera rediffusée mardi prochain de 13h à 14h, puis dimanche de 20h à 21h. Vous pouvez bien entendu réentendre et écouter cette émission où vous voulez, quand vous le souhaitez, en la podcastant, soit sur le site de Résonance Contemporaine, www.resonancecontemporaine.org, ou sur le site de Radio B, www.radio-b.fr. À très vite et très belle journée avec Radio B.